Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal de Mina Harker, 29 septembre. Dès que j'eus fait un brin de toilette, je descendis au cabinet du docteur Seward. Je m'arrêtai un instant avant de frapper à la porte, car il me sembla que le docteur s'entretenait avec quelqu'un. Pourtant, comme il m'avait prié de descendre le plus vite possible, je frappai. Et il répondit aussitôt « Entrez !» et je poussai la porte. À ma grande surprise, il était seul. Mais je vis sur sa table, devant lui, ce que je devinais tout de suite être un phonographe. Je n'en avais encore jamais vu, seulement on m'avait décrit l'appareil, et je fus vivement intéressée. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre, dis-je. Mais j'étais à la porte, et comme je vous entendais parler, j'ai cru que vous n'étiez pas seul. Oh, répondit-il en souriant, j'enregistrais mon journal. Votre journal ? Lui demandai-je. Fort étonné. « Oui, ici, » dit-il en posant la main sur le phonographe. « Quoi ? » m'écriai-je avec enthousiasme. « Mais c'est bien mieux encore que la sténographie. Puis-je entendre quelque chose ?»« Certainement, » répondit-il avec empressement. Il se levait déjà pour mettre l'appareil en marche, mais il n'en fit rien et il parut soudain contrarié. « C'est que, » reprit-il en hésitant, « je n'ai jusqu'ici enregistré que mon journal, et comme celui-ci ne concerne que mes malades, ou à peu près, il serait peut-être gênant, c'est-à-dire, je veux dire... » Il n'acheva point et j'essayais de le tirer d'embarras. « Vous avez assisté Lucie dans ses derniers moments, » lui dis-je. « Faites-moi entendre ce qui concerne sa mort, car j'aime être au courant de tout, tout ce qui la concerne. Elle était ma plus chère amie. » Je fus très étonné quand il me répondit, l'horreur peinte sur le visage. Vous faire entendre ce qui s'est passé lors de sa mort ? Pas pour un empire ! Pourquoi pas ? Insistai-je, éprouvant soudain une terrible angoisse. Il ne répondit pas tout de suite. Je compris qu'il essayait de trouver un prétexte. Voyez-vous, dit-il enfin, il me serait difficile de choisir une partie de mon journal plutôt qu'une autre. Tandis qu'il parlait, une idée dut lui traverser l'esprit, car il poursuivit sur un ton différent, avec une simplicité dont il ne se rendait pas compte lui-même, et avec une naïveté d'enfant. « C'est vrai, ma parole, c'est vrai, cela !» Je ne pus m'empêcher de sourire, ce qu'il remarqua. « Cette fois, je me suis trahi. Mais, reprit-il, savez-vous que durant tous ces mois pendant lesquels j'ai enregistré mon journal, pas une seule fois je ne me suis demandé comment, au besoin, j'en retrouverais telle ou telle partie ?» À ce moment, j'avais décidé dans mon fort intérieur que le journal d'un médecin qui avait soigné Lucie pourrait ajouter quelque chose à ce que nous savions déjà à propos de ce monstre. Aussi, proposai-je sans hésiter, « Dans ce cas, docteur, vous devriez me laisser transcrire entièrement à la machine. » Il devint pâle comme un mort et s'écria, « Non, 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 pour rien au monde, je ne vous laisserai connaître cette horrible histoire. » Donc, elle était horrible, cette histoire. J'en avais eu l'intuition. Pensive, je laissais mes regards parcourir la pièce, cherchant inconsciemment un objet qui pût m'aider d'une manière ou d'une autre, et ils s'arrêtèrent sur un gros paquet de feuilles dactylographiées posées sur le bureau. Les yeux du docteur suivirent mon regard, virent ce que je regardais, et alors j'eus l'impression qu'il allait mieux comprendre mon intention. « Vous ne me connaissez pas, » fis-je. « Lorsque vous aurez lu tout cela, mon propre journal et celui de mon mari, que j'ai l'un et l'autre copié à la machine, vous saurez mieux qui je suis. Je n'ai jamais hésité à me donner tout entière à cette cause. Mais naturellement, vous ne me connaissez pas, pas encore, et je ne peux pas espérer que vous ayez confiance en moi. » La pauvre Lucie avait raison. Le docteur Seward est certainement un homme admirable. Il se leva, alla ouvrir un grand tiroir où étaient rangés plusieurs cylindres de métal, creux et recouverts de cire noire. « C'est bien vrai ce que vous dites là, » fit-il. Je n'avais pas confiance en vous parce que je ne vous connaissais pas. Mais maintenant, je vous connais. Et laissez-moi vous dire que j'aurais dû vous connaître depuis longtemps. Je sais que Lucie vous avait parlé de moi. Elle m'avait aussi parlé de vous. Puis-je faire la seule réparation qui est en mon pouvoir ? Prenez ces cylindres et écoutez ce qu'ils ont à vous raconter. Les 6 premiers me concernent personnellement, et il n'y a là rien qui puisse vous épouvanter. Seulement, vous me connaîtrez mieux après les avoir entendus. À ce moment-là, le dîner sera prêt. De mon côté, je vais lire ces documents afin de comprendre mieux certaines choses. » Lui-même porta le phonographe dans le petit salon attenant à ma chambre et le mit en marche. « Et maintenant, je vais apprendre, j'en suis sûre, quelque chose d'amusant. L'autre version d'une histoire d'amour dont j'ai eu un premier aperçu. » Journal du docteur Seward, 29 septembre. J'étais à ce point absorbée par la lecture de ces deux journaux, celui de Jonathan Harker et celui de sa femme, que je ne m'aperçus pas que le temps passait. Et comme Madame Harker n'était pas encore descendue lorsque la servante vint annoncer le dîner, je lui dis que cette dame était sans doute fatiguée du voyage et qu'on attendrait une heure encore avant de servir. Je continuai donc ma lecture. Je venais de lire la dernière ligne du journal de Madame Harker quand celle-ci entra. Elle me parut aussi charmante que sur le quai de la gare, mais à présent elle avait l'air très triste et les yeux rouges. Dieu sait que j'avais eu, les derniers temps, des raisons de verser des larmes, mais ces larmes qui m'eussent soulagée m'avaient toujours été refusées. Aussi, voir ses 12 yeux encore brillants de pleurs m'émut profondément. « J'ai bien peur de vous avoir fait beaucoup de peine, lui dis-je. « mais non, fit-elle. Seulement, j'ai été navrée, plus que je ne saurais jamais vous le dire, en comprenant votre chagrin. Cet appareil est absolument merveilleux, mais tellement cruel. Il m'a fait connaître, et jusque dans leurs accents même, toutes les angoisses par lesquelles vous êtes passée. J'avais l'impression d'entendre une âme implorer dans sa douleur le Dieu Tout-Puissant. Il ne faut plus que personne, jamais, entende cela. » Voyez, j'ai voulu vous être utile. J'ai transcrit vos récits à la machine, afin que plus personne dorénavant ne perçoive, comme je l'ai fait, les battements de votre cœur. Mais personne non plus ne lira mon journal. Personne, jamais, répondis-je. Elle posa sa main sur la mienne et reprit gravement. Si, il le faut. Mais pourquoi ? Demandai-je. Parce que cela fait partie de cette terrible histoire qu'est la mort de cette pauvre Lucie, et des événements qui l'ont précédée. Parce que dans la lutte que nous allons entreprendre pour débarrasser la Terre de ce monstre, il nous est indispensable d'avoir le plus d'éléments et le plus de détails possible. Je pense qu'en écoutant ces enregistrements, j'ai appris plus de choses que vous ne désiriez m'en faire connaître. Mais ils jettent une certaine lumière sur le sombre mystère qui nous occupe. Vous permettez que je vous aide, n'est-ce pas ? Je suis parfaitement au courant du début de cette histoire, et je devine déjà, bien que je n'ai entendu votre journal que jusqu'à la date du 7 septembre seulement, quels malheurs ont assailli Lucie et comment son terrible destin s'est accompli. Depuis la visite que nous a faite le professeur Van Helsing, Jonathan et moi essayons sans répit d'y voir plus clair. Mon mari est parti pour Whitby afin de recueillir d'autres renseignements et il revient dès demain. Nous ne devons avoir aucun secret l'un pour l'autre. En travaillant tous ensemble et en pleine confiance, nous serons certainement plus forts pour mener à bien notre entreprise que si l'un de nous était tenu dans l'ignorance de ce que nous devons tous savoir. Dans son regard, je lisais un touchant désir de n'être pas déçu, et en même temps, elle montrait tant de courage et de résolution que je tins à la rassurer aussitôt. « Je ne puis que respecter votre volonté, » répondis-je. « Dieu me pardonne si je me trompe. Vous avez encore à apprendre d'horribles choses. Mais puisque vous en savez déjà tant sur la maladie de notre pauvre Lucie, je comprends que vous ne voulez pas en ignorer la suite. À vrai dire, lorsque vous aurez tout entendu, oui, tout à la fin, vous vous sentirez un peu tranquillisé. Maintenant, allons dîner. Nous aurons besoin de toutes nos forces. Après le repas, vous apprendrez le reste et je répondrai à chacune de vos questions, si certaines choses vous paraissent obscures, bien que pour nous qui les avons vécues, elles soient évidentes. » Journal de Mina Harker, 29 septembre. Après le dîner, j'ai accompagné le docteur Seward dans son cabinet. Il était allé au petit salon reprendre le phonographe et j'avais descendu ma machine à écrire. Il m'installa confortablement dans un fauteuil posa l'appareil près de moi en sorte que je puisse le toucher sans me lever et m'en expliqua le mécanisme qui devait l'arrêter si, à un moment ou l'autre, je désirais me reposer un peu. Lui-même, désireux que je me sente parfaitement à mon aise, s'assit en me tournant le dos et prit un livre. Je mis le phonographe en marche. Lorsque j'eus entendu l'effroyable histoire de la mort de Lucie et de tout ce qui se passa ensuite, je me laissai retomber au fond de mon fauteuil, toutes mes forces m'abandonnant. Heureusement, je ne suis pas sujette aux évanouissements. Néanmoins, le docteur Seward s'empressa d'aller prendre dans le buffet un carafon de brandy dont il me fit boire quelques gorgées, ce qui, presque aussitôt, me remit. Mais je restai bouleversée. Et si, parmi tant d'horreurs dont je venais d'avoir la révélation, la pensée que ma si chère Lucie connaissait enfin la paix ne m'avait un peu réconfortée, je crois que j'aurais crié d'indignation. Je me serais refusée à admettre ces horreurs si je n'avais pas été au courant de l'aventure de Jonathan en Transylvanie. En tout cas, je ne savais trop ce qu'il fallait penser de tout cela, et je cherchais à cacher mon embarras en disant au docteur, cependant que je découvrais ma machine à écrire, « Laissez-moi transcrire tout ce que vous racontez là. Il faut que nous soyons prêts lorsque le docteur Van Helsing arrivera. J'ai averti Jonathan par télégramme de Whitby. Il reviendra ici. Dans cette affaire, les dates importent surtout. À mon avis, si nous rassemblons tous les éléments, et cela dans un ordre chronologique, nous aurons déjà fait beaucoup. Vous me dites que vous attendez également Lord Godalming et M. Morris. Eux aussi devront être mis au courant de tout cela dès qu'ils arriveront. » Il fit donc à nouveau marcher le phonographe, mais très lentement cette fois, et je commençai à transcrire, en reprenant dès le début des 7 cylindres. J'avais l'habitude de la polycopie. Je reproduisis donc le journal en 3 exemplaires, ainsi que je l'avais fait pour les autres. Malgré l'heure avancée, le docteur Seward alla voir ses malades. Quand il revint, il s'assit près de moi et se mit à lire, me tenant ainsi compagnie pendant que je travaillais. Vraiment, il est plein d'attentions courtoises. Le monde semble n'être peuplé que d'hommes généreux, encore que sans aucun doute, il existe des monstres. Avant de me retirer dans ma chambre, je me souvins du passage de son journal où Jonathan parle de l'effarement qu'avait laissé paraître le professeur à la lecture d'un article de journal à la gare d'Exeter, et, avisant dans un coin une pile de journaux, j'y pris les derniers numéros de la Westminster Gazette et de la Pall Mall Gazette pour monter me coucher. Je me rappelle que le Daily Telegraph et la Whitby Gazette nous ont été fort utiles pour comprendre les événements terribles qui s'étaient passés à Whitby quand le comte Dracula y avait débarqué. Aussi vais-je parcourir toutes ces feuilles, espérant y trouver de nouveaux éclaircissements. Je n'ai pas sommeil, et la lecture m'aidera à rester calme. Journal du docteur Seward, 30 septembre. Monsieur Harker est arrivé à 9h. Il avait reçu le télégramme de sa femme au moment de quitter Whitby. À le voir, on devine que c'est un homme extraordinairement intelligent et énergique. Si son journal dit vrai, et je n'en doute pas si j'en juge par ce que je viens de vivre moi-même de stupéfiant, d'incroyable presque, il est également très courageux. Car il fallait beaucoup de sang-froid pour descendre une seconde fois dans ce caveau. Après avoir lu ce récit, je m'attendais à rencontrer un homme très fort, assurément, mais non ce monsieur parfaitement serein, ayant toutes les qualités d'un homme d'affaires, avec qui nous avons déjeuné aujourd'hui. Plus tard. Après le repas, Harker et sa femme sont remontés dans leur chambre, et comme je passais devant leur porte, il y a un instant, j'ai entendu qu'on tapait à la machine. Vraiment, ils sont tenaces. Selon l'expression de Madame Harker, ils mettent bout à bout, et dans un ordre chronologique, les moindres bribes de preuves qu'ils possèdent. Harker possède maintenant les lettres échangées entre ceux qui ont reçu les caisses à Whitby et la firme Carter, Patterson et compagnie de Londres. Il se propose de lire la transcription dactylographiée que sa femme a faite de mon journal. Je me demande s'ils y trouveront quelque chose qui puisse nous éclairer. Ah, le voici. Chose étrange, il ne m'était jamais venu à l'esprit que cette maison, dont le parc touche au nôtre, pouvait être celle qui sert de refuge au comte. Dieu sait pourtant que le comportement de Renfield aurait dû nous mettre sur la voie. À présent, nous sommes également en possession des lettres relatives à l'achat de la maison. Si nous les avions eues quelques jours plus tôt, nous aurions pu sauver la pauvre Lucie. Mais assez, on deviendrait fou. Harker est toujours en train de travailler. Il m'a dit que lorsqu'il descendrait pour le dîner, lui et sa femme seraient à même de nous présenter un récit assez cohérent de tous ces faits. Dans l'intervalle, il serait bon, selon lui, que je voie Renfield, puisque jusqu'ici, il nous a somme toute inconsciemment avertis des allées et venues du comte. Je ne vois pas encore bien la possibilité de la chose, mais peut-être lorsque j'aurai comparé les dates. Il est heureux que Madame Harker ait recopié mon journal à la machine. Sans cela, nous n'aurions jamais retrouvé ces dates. Quand j'entrais dans sa chambre, Renfield était tranquillement assis dans un coin et il souriait paisiblement. À ce moment, il me sembla absolument sain d'esprit. Je m'assis et me mis à bavarder avec lui d'un tas de choses. En me répondant, il faisait preuve d'un réel bon sens. Puis, spontanément, il parla de son retour chez lui, sujet que, à ma connaissance, il n'avait jamais abordé depuis qu'il séjourne ici. Je crois bien que si je n'avais pas eu cette conversation avec Harker, et si je n'avais pas lu les lettres maintenant en sa possession, ni revu les dates auxquelles Renfield a eu ses différentes crises, je lui aurais permis de partir après quelques jours à peine de mise en observation. Quoi qu'il en soit, je me demande vraiment ce qui se passe. Toutes ces crises, j'en suis maintenant à peu près convaincue, avaient lieu lorsque le comte se trouvait dans le voisinage. Que signifient donc ces dispositions actuelles ? A-t-il d'instinct la certitude que le vampire finira par triompher ? N'oublions pas que lui-même mange les êtres vivants, et que, dans ses délires, devant la porte de la chapelle de la maison abandonnée, il parlait toujours du maître. Cela pourrait bien confirmer nos suppositions. Mais je le laissais bientôt. Il me semble un peu trop lucide pour que l'on puisse sans danger lui poser des questions dont il devinerait le but, se rendre compte de son état. Si jamais il allait se mettre à penser... Oui, je le laissais. Je me méfie de ces périodes de calme. Aussi ai-je dit au surveillant d'avoir l'œil sur lui et de tenir prête une camisole de force. Journal de Jonathan Harker. 29 septembre. J'écris dans le train qui me ramène à Londres. Quand M. Billington me fit aimablement savoir qu'il était prêt à me donner tous les renseignements qu'il possédait, je pensais que le mieux pour moi était de me rendre à Whitby. En effet, je voulais alors simplement, mais exactement, connaître l'endroit de Londres où avait été expédiée la sinistre cargaison du comte. Plus tard, nous pourrions avoir à nous en occuper. Le fils Billington, un charmant garçon, m'attendait à la gare. Il me conduisit chez son père, où ils avaient décidé que je passerais la nuit. Je fus accueilli avec cette hospitalité propre au Yorkshire. On donne tout à l'invité et on le laisse faire tout ce qu'il veut. Comme chacun savait que j'avais à m'occuper de beaucoup de choses en un temps très court, M. Billington avait préparé tous les papiers concernant l'expédition des caisses. Je tressaillis quand je reconnus une des lettres que j'avais vues sur la table du comte, à l'époque où j'ignorais encore ses plans diaboliques. Il avait pensé absolument à tout, agi avec précision et méthode. Il avait prévu, semblait-il, chaque obstacle qu'aurait pu rencontrer l'exécution de ses projets. Pour user d'une expression américaine, il n'avait pris aucun risque. Et l'exactitude avec laquelle ses instructions avaient été suivies n'était que le résultat logique du soin qu'il avait mis à préparer toute cette affaire. J'eus la facture sous les yeux et je remarquai tout particulièrement qu'il y était écrit « 50 caisses de terre ordinaires destinées à certaines expériences ». Mon hôte me montra également la copie de la lettre adressée à Carter, Patterson et compagnie, ainsi que la réponse de cette firme. Et de ces deux lettres, il me remit une copie. Comme c'étaient les seuls renseignements qu'il pouvait me donner, je descendis au port afin d'interroger des gardes-côtes, les employés de la douane et le capitaine du port. Ils eurent tous quelque chose à dire au sujet de l'arrivée insolite de ce bateau mystérieux dont l'histoire appartient déjà à la tradition locale. Aucun d'eux, pourtant, ne put me donner la moindre explication quant au contenu des caisses, et je dus me contenter de la simple indication lue sur la facture « 50 caisses de terre ordinaires ». J'allai ensuite trouver le chef de gare, lequel appela aussitôt les hommes qui avaient transporté les caisses. Ils parlaient eux aussi de 50 caisses, et il n'y eut rien à ajouter, sinon qu'elles étaient énormes et terriblement lourdes, et que les soulever, c'était un travail qui donnait soif. L'un d'eux fit remarquer que c'était vraiment malheureux qu'aucun gentleman, comme vous, par exemple, monsieur, ne montra, sous une forme liquide, qu'il appréciait leurs efforts à leur juste valeur. Un autre insista en disant que la soif que le transport de ces caisses leur avait donnée était telle que le temps écoulé depuis lors ne l'avait pas apaisée. Inutile de préciser qu'avant de les quitter, j'eus soin de tarir cette source de reproches.